Littérature-audio.com vous présente Les Fables d'Ésope, tome 1. Lu par Bruissement, Choriste, Carole, Gilles-Claude, Jean-Luc, Latiti, Pomme et Stanley. À propos d'Ésope, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. On le considère comme le père de la fable. Mais a-t-il vraiment existé? Rien n'est sûr, mais qu'importe. Il est convenu désormais de parler plutôt de textes ésopiques que de fables d'Ésope. Ces fables constituent une somme de la sagesse populaire des Grecs. Elles inspireront ensuite Phèdre à Rome, puis les conteurs arabes. Les fables d'Ésope ont été compilées et publiées au XIVe siècle par Planude, un moine byzantin. Isaac Nicolas de Nivelet avait publié en 1610 une version d'Ésope en latin, et cette traduction avait été rééditée en 1660. La Fontaine l'a sûrement lue. La légende disait Ésope laid et boiteux.
D'un coq et d'une pierre précieuse. Un coq, en grattant un fumier, y trouva par hasard une pierre précieuse. Il la considéra pendant quelque temps et dit avec une espèce de mépris : de quoi me peut servir une chose si belle et si brillante ? Elle serait bien mieux entre les mains d'un lapidaire qui en connaîtrait le prix et l'usage qu'il en faut faire. Mais pour moi, qui n'en puis retirer aucune utilité, je préférerais un seul grain d'orge à toutes les pierres précieuses du monde.
D'un loup et d'un agneau. Un loup, buvant à la source d'une fontaine, aperçut un agneau qui buvait au bas du ruisseau. Il l'aborda tout en colère et lui fit des reproches de ce qu'il avait troublé son eau. L'agneau, pour s'excuser, lui représenta qu'il buvait au-dessous de lui et que l'eau ne pouvait remonter vers sa source. Le loup, redoublant sa rage, dit à l'agneau qu'il y avait plus de 6 mois qu'il tenait de lui de mauvais discours.
« Je n'étais pas encore né, » répliqua l'agneau.
« Il faut donc, » repartit le loup, « que ce soit ton père ou ta mère. » Et, sans apporter d'autres raisons, il se jeta sur l'agneau et le dévora. « Pour le punir, disait-il, de la mauvaise volonté et de la haine de ses parents. »
Du rat et de la grenouille. Dans le temps que la guerre était allumée entre les grenouilles et les rats, une grenouille fit un rat prisonnier et lui promit de le traiter favorablement. Elle le chargea sur son dos pour faire le trajet d'une rivière qu'elle était obligée de passer pour rejoindre sa troupe. Mais cette perfide, se voyant au milieu du trajet, fit tous ses efforts pour secouer le rat et pour le noyer. Il se tint toujours si bien attaché à la grenouille qu'elle ne put jamais s'en défaire. Un oiseau de proie, les voyant se débattre de la sorte, vint tout à coup fondre dessus et les enleva pour en faire sa proie.
Du cerf et de la brebis. Un cerf accusa une brebis devant un loup, lui redemandant un mouis de froment. Elle ne lui devait rien. Cependant, le loup la condamna à payer ce que le cerf lui demandait. Elle promit de satisfaire et d'exécuter la sentence au jour marqué. Quand le temps du paiement fut échu, le cerf en avertit la brebis. Elle protesta contre la sentence et dit qu'elle ne paierait pas, ajoutant que si elle avait promis quelque chose, ce n'était que par la seule crainte du loup, son ennemi déclaré, et qu'elle n'était nullement obligée de payer ce qu'elle ne devait pas, puisqu'elle ne l'avait promis que par force.
Du chien et de son image. Un chien, traversant une rivière sur une planche, tenait dans sa gueule un morceau de chair que la lumière du soleil fit paraître plus gros dans l'eau, comme c'est l'ordinaire. Son avidité le poussa à vouloir prendre ce qu'il voyait, et il lâcha ce qu'il portait pour courir après cette ombre. C'est ainsi que sa gourmandise fut trompée, et il apprit à ses dépens qu'il vaut mieux conserver ce que l'on possède que de courir après ce qu'on n'a pas.
Du lion allant à la chasse avec d'autres bêtes. Un lion, un âne et un renard étant allés de compagnie à la chasse, prirent un cerf et plusieurs autres bêtes. Le lion ordonna à l'âne de partager le butin. Il fit les parts entièrement égales et laissa aux autres la liberté de choisir. Le lion, indigné de cette égalité, se jeta sur l'âne et le mit en pièces. Ensuite, il s'adressa au renard et lui dit de faire un autre partage. Mais le renard mit tout d'un côté, ne se réservant qu'une toute petite portion. « Qui vous a appris ? » lui demanda le lion, « à faire un partage avec tant de sagesse. » « De la funeste aventure de l'âne, » lui répondit le renard.
Du loup et de la grue. Un loup, s'étant enfoncé par hasard un os dans la gorge, promit une récompense à la grue, si elle voulait, avec son bec, retirer cet os dont il se sentait incommodé. Après qu'elle lui eut rendu ce bon office, elle lui demanda le salaire dont ils étaient convenus. Mais le loup, avec un rire moqueur et grinçant les dents, « Contentez-vous, lui dit-il, d'avoir retiré votre tête saine et sauve de la gueule du loup, et de n'avoir pas éprouvé à vos dépens combien ses dents sont aiguës. »
Le laboureur et le serpent. Un laboureur trouva dans la neige une couleuvre transie de froid. Il l'emporta dans son logis et la mit auprès du feu. Mais quand elle se sentit réchauffée et qu'elle eut repris ses forces, elle se mit à répandre son venin par toute la maison. Le laboureur, irrité d'une ingratitude si noire, lui fit de grands reproches, et ajoutant les faits aux menaces, il prit une cognée pour couper en 1000 morceaux le serpent ingrat qui rendait le mal pour le bien et qui voulait ôter la vie à son bienfaiteur.
Du sanglier et de l'âne. Un âne, ayant rencontré par hasard un sanglier, se mit à se moquer de lui et à l'insulter. Mais le sanglier, frémissant de courroux et grinçant les dents, eut d'abord envie de le déchirer et de le mettre en pièces. Ensuite, faisant aussitôt réflexion qu'un misérable âne n'était pas digne de sa colère et de sa vengeance, « Malheureux !» lui dit-il. Je te punirai sévèrement de ton audace si tu en valais la peine. Mais tu n'es pas digne de ma vengeance. Ta lâcheté te met à couvert de mes coups et te sauve la vie. » Après lui avoir fait ses reproches, il le laissa aller.
D'un rat de ville et d'un rat de village. Un rat de ville alla un jour faire visite à un rat de campagne de ses amis, qui lui donna un repas frugal composé de racines et de noisettes. Après le repas, le rat de ville prit congé de son hôte, qui lui promit de l'aller voir à son tour. On le régala magnifiquement de confitures et de fromages. Mais le repas fut souvent interrompu par les valets de la maison, qui allaient et qui venaient de tous côtés, et qui causèrent de mortelles alarmes aux rats du village. De sorte que, saisi de crainte, il dit aux rats de ville qu'il préférait un repas frugal, fait en repos et en liberté, et la pauvreté du village, à la magnificence des villes et à une abondance pleine d'inquiétude et de danger.
De l'aigle et de la corneille. Un aigle, voulant manger une huître, ne pouvait trouver moyen, ni par force, ni par adresse, de l'arracher de son écaille. La corneille lui conseilla de s'élancer au plus haut de l'air et de laisser tomber l'huître sur des pierres pour la rompre. L'aigle suivit ce conseil. La corneille, qui était demeurée en bas pour en attendre l'issue, voyant qu'il avait réussi, se jeta avidement sur le poisson qu'elle avala, ne laissant à l'aigle que les écailles pour le prix de sa crédulité.
De l'aigle et du renard. Une aigle et un renard, ayant fait société ensemble, convinrent pour serrer plus étroitement les nœuds de leur amitié, de demeurer l'un auprès de l'autre. L'aigle choisit un arbre fort élevé pour y faire son nid, le renard se creusa une tanière au pied de l'arbre et il y mit ses petits. étant un jour sortis pour aller leur chercher la proie, l'aigle pressé de la faim vint fondre sur les petits du renard, dont elle fit faire curer à ses aiglons. Le renard étant de retour, et voyant la perfidie de sa voisine, fut moins attristé du malheur de ses petits que du désespoir d'être hors d'état d'en tirer vengeance, parce qu'il ne pouvait s'élever dans l'air pour poursuivre son ennemi. Se tenant donc à l'écart, il donnait à l'aigle 1000 imprécations, ne pouvant se venger autrement de sa perfidie. Peu de temps après, quelques-uns immolèrent une chèvre, qu'ils firent brûler dans un champ voisin. L'aigle vint fondre dessus et enleva une partie de la victime qu'elle porta dans son nid avec quelques charbons ardents qui y mirent le feu. Le vent venant à souffler avec impétuosité, les aiglons qui n'avaient point encore de plumes tombèrent au pied de l'arbre. Le renard y accourut et les dévora tous à la vue de l'aigle.
Du corbeau et du renard. Un corbeau s'était perché sur un arbre pour manger un fromage qu'il tenait en son bec. Un renard qui l'aperçut fut tenté de lui enlever cette proie. Pour y réussir et pour amuser le corbeau, il commença à le louer de la beauté de son plumage. Le renard, voyant que le corbeau prenait goût à ses louanges, « C'est grand dommage, poursuivit-il, que votre chant n'en réponde pas à tant de rares qualités que vous avez. » Le corbeau, voulant persuader au renard que son chant n'était pas désagréable, se mit à chanter et laissa tomber le fromage qu'il avait au bec. C'est ce que le renard attendait. Il s'en saisit incontinent et le mangea aux yeux du corbeau, qui demeura tout honteux de sa sottise et de s'être laissé séduire par les fausses louanges du renard.
Le lion cassait de vieillesse. Le lion, dans sa jeunesse, abusant insolemment de sa force et de l'ascendant qu'il avait sur les autres animaux, se fit plusieurs ennemis. Quand ils le virent usé et affaibli par les années, ils résolurent de concert de tirer vengeance de ses cruautés et de lui rendre l'appareil. Le sanglier le meurtrissait avec ses défenses, le taureau l'attaquait avec ses cornes. Mais l'affront le plus sensible au lion était les coups de pied que l'âne, le plus vil et le plus méprisable de ses ennemis, lui donnait en l'insultant.
De l'âne et du chien. Le chien flattait son maître, et le maître y répondait en le caressant de son côté. Ces caresses réciproques donnèrent de la jalousie à l'âne, qui était maltraité et battu de tout seul la maison. Ne sachant quelle mesure prendre pour soulager sa misère, il s'imagina que le bonheur du chien ne venait que des caresses qu'il faisait à son maître, et que s'il le flattait aussi de la même sorte, on le traiterait comme le chien, et qu'on le nourrirait de même de viande délicate. Quelques jours après, l'âne, ayant trouvé son maître endormi dans un fauteuil, voulut venir le flatter, et lui mit les deux pieds de devant sur les épaules, commençant à braire pour le divertir par une mélodie si harmonieuse. Le maître, réveillé par ce bruit, appela ses valets, qui chargèrent l'âne de coups de bâton pour le récompenser de sa civilité et des caresses trop rudes qu'il avait faites à son maître.
Du lion et du rat. Un lion, fatigué de la chaleur et abattu de lassitude, dormait à l'ombre d'un arbre. Une troupe de rats passa par le lieu où le lion reposait. Ils lui montèrent sur le corps pour se divertir. Le lion se réveilla, étendit la patte et se saisit d'un rat qui, se voyant pris sans espérance d'échapper, se mit à demander pardon au lion de son incivilité et de son audace, lui représentant qu'il n'était pas digne de sa colère. Le lion, touché de cette humble remontrance, lâcha son prisonnier, croyant que c'eût été une action indigne de son courage de tuer un animal si méprisable et si peu en état de se défendre. Il arriva que le lion, courant par la forêt, tomba dans les filets des chasseurs. Il se mit à rugir de toute sa force, mais il lui fut impossible de se débarrasser. Le rat reconnut au rugissement du lion qu'il était pris. Il accourut pour le secourir, en reconnaissance de ce qui lui avait sauvé la vie. En effet, il se mit à ronger les filets et donna moyen au lion de se développer et de se sauver.
Du Milan malade. Le Milan, se voyant réduit à l'extrémité, et n'espérant plus de guérir par la force des remèdes, conjura sa mère d'aller prier les dieux de lui rendre la santé. « Mon fils, lui répondit-elle, ce serait en vain que tu attendrais du secours du côté des dieux après avoir profané si souvent leurs autels et les sacrifices qu'on leur offrait.
De l'hirondelle et des autres oiseaux. Lorsque la saison de semer le lin fut venue, l'hirondelle voulut persuader aux autres oiseaux de faire tous leurs efforts pour s'opposer à cette semaille qui devait leur être si funeste. Les autres oiseaux se moquèrent de ses conseils, lui disant qu'elle s'alarmait mal à propos. Quand le lin fut prêt à sortir de terre, elle leur conseilla de l'arracher. Ils n'en voulurent rien faire et ne s'inquiétèrent nullement de ses avis. Lorsque l'hirondelle vit que le lin commençait à mûrir, elle les exhorta à piller les blés, mais ils ne s'en mirent pas en peine. L'hirondelle, voyant que ses remontrances étaient inutiles, se sépara des autres oiseaux et rechercha le commerce des hommes avec qui elle fit amitié. Depuis ce temps-là, elle habite dans les maisons, elle y fait son nid. On l'y laisse vivre en repos et l'on se sert du lin pour faire des filets et pour tendre des pièges aux autres oiseaux.
«
des grenouilles et de leur roi. Les grenouilles, jouissant d'une parfaite liberté, prièrent Jupiter de leur donner un roi pour les gouverner. Mais Jupiter se moqua d'une demande si ridicule. Les grenouilles ne se rebutèrent point de ce refus, elles sollicitèrent Jupiter avec plus d'empressement. Il se rendit à leur importunité. Il jeta dans leur étang une grosse souche de bois qui fit trembler tout le marais par le bruit qu'elle fit en tombant. Les grenouilles, épouvantées, gardaient le silence sans oser paraître. Elles abordèrent cependant ce nouveau prince pour le saluer et pour lui faire leur cour. Quand la crainte fut entièrement dissipée, elles s'apprivoisèrent tellement qu'elles se mirent toutes à sauter sur le dos de leur roi et à se moquer de lui, disant qu'il n'avait ni mouvement ni esprit. Elles ne purent se résoudre à recevoir cette souche pour leur roi. Elles retournèrent donc vers Jupiter pour le prier de leur en donner un autre, qui eût plus de mérite. Jupiter écouta la prière des grenouilles et leur donna pour les gouverner une cigogne. Ce nouveau roi, se promenant sur les bords de leur marais pour leur faire montre de son courage, en dévora autant qu'il en trouva à sa bienséance. Les grenouilles, alarmées de ce mauvais traitement, présentèrent une nouvelle plainte à Jupiter qui ne voulut point entendre parler de cette affaire. Depuis ce temps-là, elles ont toujours continué à se plaindre et à murmurer. Car vers le soir, lorsque la cigogne se retire, les grenouilles sortent de leur marais en exprimant dans leur croassement une espèce de plainte. Mais Jupiter est toujours demeuré inflexible et n'a jamais voulu les affranchir de l'oppression où elles gémissent depuis tant d'années en punition de ce qu'elles n'avaient pu souffrir un roi pacifique.